Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jacques avec vous sur CFM Radio aujourd'hui pour un nouveau numéro du magazine du Tarn. Nous sommes aujourd'hui à Gaillac sur la place du Grifoul, exactement installée dans la cave et épicerie Fine Rouge Gorge qui nous accueille pour cette émission spéciale et je les en remercie au passage. Une émission où je reçois Madame Claire Fitam, qui est députée européenne et conseillère régionale d'Occitanie. Et avec elle, nous allons revenir sur ces deux premières années de mandat au Parlement européen, parler d'Europe concrète, de la ruralité et de ce que l'Europe fait et peut faire pour nos territoires. On évoquera aussi quelques-uns des grands dossiers qu'elle défend à Bruxelles ou en quelque sorte ses priorités dans les prochains mois, prochaines années à venir. Bonjour Madame Claire Fitam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Déjà nous nous retrouvons après une rencontre, on va dire, au contact des Tarnais ce vendredi 17 juillet. Vous étiez sur le marché de Gaillac là, avec la casquette cette fois-ci de conseillère régionale d'Occitanie. C'est dans le cadre de la tournée de la région à vos côtés. Vous êtes allé sur plusieurs marchés déjà, le festival Pause Guitare aussi. L'idée c'est de rencontrer de manière un peu, on va dire, différente les Tarnais.
Oui, c'est ça, être en proximité dans un autre contexte, hein, qui est celui de la vie quotidienne des Tarnaises et des Tarnais, pour d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils identifient comme étant les actions de la région Occitanie, parce que c'est vrai que souvent, ils sont perdus dans les compétences, soit de l'État, soit des collectivités, donc voilà, réexpliquer la région, c'est notamment les lycées, hein, l'État en charge des lycées, comme toutes les régions en France, et bien sûr Occitanie, on a une action très forte sur la rentrée la moins chère de France, parce que nos lycéens, on tient beaucoup à ce qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions, donc quand ils rentrent en seconde, ils ont leur manuel bien sûr gratuit et toute leur scolarité, mais aussi un ordinateur portable. Parce que la fracture numérique, ça touche véritablement tous les territoires. Et donc voilà, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'action de la région, mais surtout quelles sont leurs priorités et qu'est-ce qu'ils peuvent nous suggérer pour faire évoluer, parce qu'on a bien conscience que tout ne va pas bien. Hein, et donc, autant on aime bien entendre les satisfactions, mais aussi les mécontentements, on est là pour ça, et faire évoluer, surtout notre action au quotidien. Donc, c'est ce qu'on a fait ce matin, avec un questionnaire notamment, parce que comme ça, on engage la conversation. Et c'est ce qu'on a fait ce matin à Gaillac, et que nous faisons dans toute la région Occitanie, là, depuis un mois et demi, et jusqu'à la fin de l'été.
Qu'est-ce qui revient le plus souvent de ce que les Tarnais vous disent ?
Alors, ils ont bien identifié l'action de la région sur les lycées, sur les trains aussi, hein, notamment.
La mobilité, donc.
Les mobilités, les bus LIO, avec notamment cette tarification très avantageuse, hein, des trajets à 1 euro, et notamment pour notre jeunesse. Par contre, sur les préoccupations qui reviennent systématiquement, c'est le pouvoir d'achat, hein, leur pouvoir d'achat, leur difficulté à boucler les fins de mois, mais aussi la santé, avoir un médecin généraliste. Ils n'en ont pas forcément, ils ont des délais très importants pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes. Et c'est pour cela que la région Occitanie, alors que ça ne fait pas du tout partie de ses compétences, mais a été force de proposition. Et nous avons recruté le 150e médecin en région Occitanie, donc une autre proposition complémentaire par rapport à ce qui existe, des médecins salariés dans des centres de santé. Et dans le Tarn, nous avons trois centres de santé avec des médecins donc salariés par la région, mais bien sûr ce sont des projets qui sont portés aussi par les communes ou les intercommunalités qui font appel à la région pour qu'elles puissent monter avec eux ce type de dispositif.
Alors vous avez la double casquette, hein, à la fois d'élu régional et de députée européenne. Concrètement, comment est-ce que ces deux fonctions se complètent-elles ?
Alors, l'Union européenne, l'Europe, ça fait longtemps en fait qu'elle porte cet échelon qu'est la région. Partout en Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, voilà, c'est un continent, hein, donc c'est immense. Il y a bien entendu des États, hein, qui appartiennent à l'Union européenne, mais là aussi, cet échelon national n'est pas un échelon suffisant en termes de proximité pour pouvoir déployer de manière la plus efficace, en tout cas c'est ma conviction, hein, y compris des politiques européennes, donc des politiques nationales, mais aussi des politiques européennes. Et donc moi, je suis élue régionale et puis élue locale, hein, j'ai été élue locale pendant aussi longtemps. Je suis très attachée à cette efficacité de l'action publique, et pour moi, elle passe notamment aussi par la proximité. Alors ça passe par l'ambition, ça passe bien sûr par une vision, hein, bien évidemment, mais aussi par la proximité. Et donc, étant élue régionale depuis de nombreuses années, ça fait longtemps que je travaille sur les politiques européennes, hein, donc, dont nous avons besoin, et même l'Union européenne, elle a délégué en fait aux régions la gestion d'un certain nombre de fonds européens qui sont très importants. Vous voyez, pour la région Occitanie, ça représente plus de 800 millions d'euros par programmation, donc c'est pluriannuel, et ce sont bien sûr des subventions qui font levier et qui peuvent s'additionner, bien entendu, avec d'autres participations pour monter autant des projets publics, de services publics, mais aussi privés pour accompagner les entreprises dans leur développement. Donc la complémentarité, elle est notamment par cet aspect-là. Et ensuite, moi, en tant que députée européenne, c'est vrai que je me suis engagée dans ce mandat, dans un contexte tout particulier. Nous avons une guerre sur le continent européen, alors que je suis de la génération de la paix. Moi, je n'ai jamais connu que la paix sur le continent européen. Et c'est profondément le projet européen que de préserver la paix, que ce soit bien sûr sur le continent européen, mais au-delà, c'est une vraie valeur qui est portée, et elle n'a jamais été aussi importante à défendre. Donc je pense qu'on n'a jamais autant attendu de l'Europe, en tout cas moi c'est ce que je porte, plus d'Europe, mais avec aussi ce constat, parce qu'il ne faut pas être naïf, c'est mieux d'Europe. Moi je souhaite plus d'Europe, mais mieux d'Europe.
Et que ça puisse changer le quotidien de monsieur et madame tout le monde, quel que soit le territoire où il et elle habitent, et concrètement, quels exemples de projets, par exemple, l'Europe a financés dans le passé, dans le présent et peut-être à venir, pour que les gens se rendent compte de comment est-ce que l'Europe agit au quotidien pour nous?
Alors, le fonds qui est mobilisé, en fait, c'est dans le cadre d'une politique qui s'appelle les fonds de cohésion. Et c'est faire Europe, en fait, le projet de ce fonds-là, de cette politique européenne. Et donc, comme je vous le disais, la région Occitanie, c'est 800 millions d'euros. Et les types de projets, eh bien, c'est une entreprise qui veut développer, que ce soit sur de l'innovation ou sur un agrandissement de son outil de production, hein, son outil de production, donc du concret, soit du bâtiment, soit des machines pour pouvoir développer sa production. Mais c'est aussi, par exemple, de la rénovation énergétique de logements sociaux. Et ça, on en a partout dans le Tarn. Quand j'étais il y a 3 semaines en visite à Carmo, c'est notamment sur ce type d'intervention que les fonds européens ont largement été mobilisés, bien sûr, sur Carmo, mais aussi, à la suite notamment de la pandémie, l'Union européenne, elle a tenu à accompagner les hôpitaux dans leurs projets de rénovation indispensable ou d'adaptation par rapport aux besoins de santé de notre population. Et c'est en ça que, moi, je trouve l'Europe est très utile, parce que elle est capable de dire, eh bien voilà, cette politique de santé, nous avons besoin de soigner de manière équitable et beaucoup mieux que ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Donc je mobilise des moyens pour les aider. Ensuite, créer de l'emploi. Voilà, créer de l'emploi, c'est une vraie priorité aussi pour l'Union européenne et bien sûr pour des territoires comme les nôtres. Mais aussi, il y a une énorme politique qui est très importante, c'est la politique agricole commune. Donc au niveau européen, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment eu ce projet de nourrir la population européenne. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un constat de profonde injustice, notamment sur la politique agricole commune, qu'il faut faire profondément évoluer, parce qu'on le voit par exemple en Occitanie, hein, nous avons les revenus agricoles les plus faibles de France. Alors c'est un lien, c'est pas du tout un lien avec la compétence de nos agriculteurs, au contraire, ils sont véritablement des acteurs avec un savoir-faire et des productions de grande qualité, parce qu'on est la région d'Europe où nous avons le plus de produits sous signe officiel de qualité. C'est une reconnaissance qui atteste bien de la grande qualité des produits.
Mais malgré ça, les fonds ne suivent pas.
Parce que nous sommes dans une région où nous souffrons particulièrement du réchauffement climatique. Donc,
on le sent bien actuellement.
Exactement, ouais. On le sent vraiment de manière très significative, mais ça fait plusieurs décennies que nos agriculteurs sont face à ce type de contexte, avec aussi une multiplication des aléas climatiques qui entachent véritablement leur capacité à produire. Et donc ça, ça touche à leurs revenus. Et sans revenus, nous n'aurons plus d'agricultrices et d'agriculteurs. Or, ils font un travail formidable, et en particulier le modèle que nous avons en région Occitanie, c'est plutôt modèle agricole à échelle plutôt familiale. Hein. Ce sont des petites exploitations, très majoritairement, polyculture et élevage, donc très diversifiées. On a une agriculture biologique très forte dans notre région aussi. Et donc, cette politique agricole commune, c'est vraiment pour moi un chantier très important et qui touche notre ruralité par essence. Redistribuer de manière beaucoup plus juste, en fait, les aides publiques. Vous savez, au niveau européen, 80% des aides vont à 20% des agricultrices et des agriculteurs. Donc, on voit bien que ce n'est pas partagé, c'est profondément injuste et il faut plus de justice. Mais j'ai envie de dire aussi, le vrai projet européen, c'est ce changement de paradigme. Nous avons besoin d'une Europe qui protège nos concitoyens, que ce soit bien entendu par rapport à ce risque de guerre qui est très prégnant, bien entendu, donc l'enjeu de la paix, mais aussi qui protège nos producteurs, que ce soit nos producteurs agricoles, mais aussi nos producteurs industriels, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a eu un dogme d'ouverture de tout de l'Union européenne sous l'Organisation mondiale du commerce, qui a véritablement eu un mouvement de désindustrialisation de l'Union européenne et de la France, bien entendu. Et nous sommes face au même risque concernant l'agriculture. Nous risquons de perdre nos agricultrices et nos agriculteurs et donc notre production agricole. Et donc c'est pour moi le projet européen qui doit là intervenir, protéger nos producteurs pour leur permettre, bien entendu, de maintenir leur activité, qui est une activité avec des produits de grande qualité, et surtout regagner en souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est ce qui garantira la protection de nos concitoyens. Oh, il est où le vent ? Oh, il est où mon frère ? Oh, il va de l'avant seul.
On va parler de la ruralité de manière un peu plus fine en suivant, mais déjà j'aimerais revenir sur votre rendez-vous donc à Carmaux il y a quelques semaines, là où vous étiez en compagnie du maire de Carmaux, M. François Bouissier. Il s'agissait de faire, si j'ai bien compris, à la fois un état des lieux de ce qui avait déjà été fait, de ce qui pourrait être fait, du type de projet que l'Europe pouvait soutenir. Déjà, quels sont les projets qui sont envisagés là sur Carmaux ?
Là, ils ont un projet autour des jardins du Cérou. qui est un espace très intéressant, vraiment dans le cœur de Carmo. Et ils ont à la fois un projet d'aménagement, mais surtout une dimension participative qu'ils veulent mettre en place pour pouvoir définir ce projet. Donc, il est encore en construction. Il va être proposé à la votation des Carmosines et des Carmosins. Et donc, on est à la fois sur un aménagement d'espace public, hein, parce que c'est très important, notamment des espaces verts. Hein, on a besoin d'avoir ces poumons, hein, surtout au vu des conditions climatiques qui sont les nôtres, en plein centre-ville, pour permettre une qualité de vie à l'ensemble des habitants de Carmo, mais aussi une vocation culturelle, associative, avec un espace là qui serait plutôt dédié à ce type d'activité. Et surtout, ce qui est passionnant, hein, c'est de dire comment on met les citoyens au cœur d'un projet d'aménagement. C'est vraiment l'ambition de François Bouissier, de toute son équipe, et il va réussir. Et l'objet de ce rendez-vous, c'était de dire ben, voilà, comment l'Union européenne, ça rentre tout à fait dans ces politiques d'intervention, et techniquement, comment on travaille ensemble pour que ça soit possible, parce que l'argent est le nerf de la guerre.
Mais toujours, et pour pouvoir débloquer cet argent, ce n'est pas toujours facile, et je pense que vous en êtes consciente. Les dossiers européens sont parfois très lourds en termes d'ingénierie, de projet, de suivi aussi, mais aussi en termes de trésorerie, parce que souvent, il faut avancer l'argent et être payé bien plus tard. Vous en êtes consciente de ça?
Il y a un enjeu de simplification qui est immense. Mais je découvre en fait aussi le fonctionnement de l'Union européenne dans les autres pays de l'Union européenne. Et je me rends compte qu'il y a une surtransposition française qui est majeure. En fait, vous allez en Espagne, donc qui est tout près, hein, et pour le même type de projet, bien voilà, l'État espagnol ne demande pas, ne renchérit pas en fait sur l'ensemble des exigences.
C'est un peu plus simple.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, il y a encore de vrais défauts, notamment sur les délais de paiement qui sont trop longs. Et donc ça, il y a vraiment cet enjeu de raccourcir et d'être plus efficace. Mais vraiment sur la simplification, c'est vraiment la France qui doit revoir complètement. Et on est vraiment sur une surtransposition française. Donc au niveau européen, il y a donc un grand nombre de textes qui sont proposés justement dans cet objectif de simplification. Mais ma conception aussi, c'est que bien sûr, il faut simplifier et il faut aller le plus loin possible. Mais moi, je ne suis pas, quand je dis que j'ai besoin que l'Europe, elle protège, du coup, je ne veux pas qu'elle soit dans une dérégulation. Parce qu'aujourd'hui, de grands continents et des États, comme notamment les États-Unis, nous demandent, attaquent notre régulation, notamment numérique, au niveau européen. Et ça, vous savez, notre ruralité, elle a aussi beaucoup besoin de numérique. Elle a besoin de production agricole, elle a besoin de services publics. Mais cet accès au monde, c'est aussi ces services numériques qui sont indispensables dans notre quotidien. Et donc, on a ces grands États qui voudraient véritablement qu'on dérégule au niveau européen, mais ce serait perdre véritablement en souveraineté. Et il y a notamment un dossier sur lequel je travaille tout particulièrement, qui peut paraître lointain, pourtant c'est notre quotidien, c'est l'euro numérique. Aujourd'hui, on paye avec nos cartes bleues.
Cartes bleues.
Voilà, pour la majorité de nos paiements, on utilise bien sûr encore le liquide et c'est très important, mais eh bien vous savez que la majorité des moyens de paiement, donc Visa, Mastercard, ce sont des entreprises
américaines.
Mmh. Et du jour au lendemain, sur une décision de l'administration américaine, eh bien on pourrait ne plus avoir accès à nos moyens de paiement. Et on pourrait se dire, non mais ça n'arrivera pas. Mais si, c'est déjà arrivé. L'administration américaine a décidé de couper les moyens de paiement d'un juge français, hein, de la Cour pénale internationale, il s'appelle Nicolas Guillou, et du jour au lendemain, il n'a plus pu payer quoi que ce soit, prendre une chambre d'hôtel, payer son journal avec sa carte. Plus rien n'était possible. Et donc là, ça a été une grosse bataille, parce qu'au sein du Parlement européen et au sein des États membres, il y avait beaucoup d'opposition. Mais nous avons voté, c'est pas vieux, hein, il y a 15 jours, enfin, le fait que nous ayons un euro numérique. Qu'est-ce que ça signifie, l'euro numérique? C'est pas du tout la fin du cash, hein, la fin du liquide, pas du tout, au contraire, ça ne change rien. Mais c'est juste se dire que nous allons allons pouvoir développer des moyens de paiement publics et européens, dont nous serons souverains, dont personne venant de l'extérieur ne pourra nous couper cet accès à nos moyens de paiement, parce que c'est quand même utile tous les jours.
Merci beaucoup Claire Fita d'avoir pris le temps de répondre à mes questions ici à Gaillac, dans la cave Rouge Gorge, après cette étape de la tournée, la région à vos côtés. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale de l'Occitanie et députée européenne, et vous faites partie du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Merci beaucoup, très bel été à vous.
Merci à vous aussi.
Interview, témoignage, CFM, coup de projecteur.
Pour découvrir la nature et la rivière autrement, pourquoi pas une sortie en canoë-kayak. En plus, il fait chaud, ça fera du bien. Et c'est possible par exemple avec Escapado. C'est au départ de Pennes et Loi fait partie de l'équipe d'Escapado.
Nous avons créé cette base de canoë en 2020. Alors, le système de cette base est un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs, puisqu'elle est située à l'arrivée des parcours. Donc nous, on a un principe différent. On remonte les personnes avant leur parcours en navette au point de départ et ils font leur descente des gorges et la base est située à l'arrivée.
Il y a deux descentes que propose Escapado. Le départ se fait à partir de 9h et il faut rendre les bateaux au maximum à 18h30.
Une de 7 km qui va de Casale jusqu'à Pennes, où il faut compter 2 heures de navigation sans les arrêts. Et une un peu plus grande qui commence 5 km en amont de Casale, donc celle-ci, elle fait 12 km, donc de Vielfour jusqu'à Pennes. Et là, il faut compter plutôt 3 heures de navigation sans les arrêts. Comme la rivière est le point le plus bas de la vallée, on se sent vraiment tout petit dans les gorges, comme c'est vraiment encaissé. C'est vraiment un paysage qu'on n'a pas l'habitude de voir lorsqu'on est à pied ou en voiture. C'est vraiment assez impressionnant quand on est sur la rivière.
Et pour les balades en famille, Éloi nous donne quelques indications.
Nous ouvrons la location de canoë à partir de 5 ans. Donc il faut avoir 5 ans révolus le jour de la balade et il faut savoir nager. Ce sont les deux principales conditions quant à la pratique du canoë.
Escapado-pen.fr, c'est le site internet où vous pourrez trouver toutes les informations pratiques et les contacts pour réserver des canoës ou des kayaks pour une balade dans les gorges de l'Aveyron. C'est juste à côté de Saint-Antonin-Noble-Val sur un site classé Natura 2000.
Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur.
That happens.